Alors pour cette nouvelle émission en Gascogne, je vous propose de rencontrer Sophie Rabhi-Bouquet, qui est éducatrice, auteure, médiatrice, fondatrice du Hameau des Buis, qui était en Ardèche, et qui maintenant donc est venue ici en Gascogne, où elle gère à la fois l'oasis de Poulart et la ferme des enfants, qui est une école dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Sophie a grandi dans l'aventure de Pierre Rabhi, d'où son nom, dans son retour à la terre, et le perpétue à sa manière, concrètement, dans un lieu de vivre autrement et un lieu de transmission que donc je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour Sophie Rabhi, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors tu es la fille de Pierre Rabhi, grande personne vraiment qui a été, il y a une expression qui est attachée à lui, c'est la sobriété heureuse, et ce réseau des colibris qu'il a lancé au départ, puis maintenant des oasis en tout lieu, et maintenant la coopérative des oasis, dans l'ours et la carotte, on en a déjà parlé souvent, autant des colibris, autant au début des oasis, plus récemment avec Mathieu Labonne qu'on a interviewé. Toi, ici, quel souvenir de ton papa tu fais vivre ?
En fait, je me sens tout à fait légitime pour en parler parce que je suis celle des 5 enfants qui a continué un peu sur cette voie. Et j'étais à l'origine aussi du mouvement pour les oasis en tout lieu parce que dans les débuts des années 90, j'étais toute jeune, j'étais encore étudiante. Mais j'ai collaboré au manifeste pour des oasis en tout lieu. Et c'était le tout début de la réflexion. Alors c'est vraiment son idée, c'est vraiment son déploiement basé sur du connu, parce que les écovillages précèdent bien sûr les oasis. Mais la spécificité, c'était vraiment que c'était basé sur la terre comme fondement, la sécurité alimentaire. Et avec l'idée d'être des collectifs plutôt que des communautés. Parce que mes parents ont traversé aussi, surtout en Ardèche, tout le phénomène 68 et en ont vu les limites. Et pour eux, il était évident qu'on doit aller vers des vies collectives, mais pas forcément des communautés. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle plus un collectif qu'une communauté. Et donc mon père m'accompagne chaque jour parce que c'est vraiment dans sa pensée la transmission dont j'ai bénéficié que je peux aujourd'hui déployer tout ça et continuer au-delà de sa disparition.
Il y a cette idée, donc tu l'as dit, de collectif, mais au-delà de sécurité alimentaire. C'est vraiment les deux piliers les plus forts ou il y a autre chose quand même qui accompagne ta philosophie ?
Il y a vraiment l'humain et surtout à travers l'enfant. Et ça, c'est vraiment le fil que je tire depuis plus de 35 ans maintenant. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est plus important que d'avoir des panneaux solaires, de recycler son eau de pluie et d'avoir des toilettes sèches. Parce que ça, techniquement, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu à la portée de tout le monde. En revanche, la grande question humaine de savoir pourquoi nous nous comportons comme nous nous comportons sur Terre et depuis des générations avec tous les malentendus et les drames que cela peut créer, c'est ça qui m'intéresse au plus profond. Je parle du mal-être un peu généralisé de l'espèce humaine sur cette planète, avec sa difficulté à s'harmoniser avec les autres êtres vivants, à trouver aussi la satisfaction, la plénitude, le bonheur, on pourrait le dire, sans utiliser un gros mot, malgré et en dépit de tout ce déploiement technologique, de confort et de domination de la nature et de notre condition primaire dans la nature que nous avons au fil des temps déployé de manière absolument colossale pour un bien maigre effet sur le plan de la satisfaction humaine. Plus grave que cela, nous avons cette propension à détruire le vivant. Alors le vivant en nous, mais aussi chez les autres, les enfants aussi, nos difficultés à nous harmoniser avec ce qui est vivant chez l'enfant. Et enfin, toute cette destruction effectivement de la biosphère et qui est de plus en plus évidente parce que voilà, c'est un printemps de plus où je constate que j'ai dû voir deux abeilles, deux papillons. Les petits êtres vivants qui nous entourent sont de plus en plus raréfiés, quoi.
Alors tu peux nous parler du lieu dans lequel on est. Tu es arrivé ici, donc tu as quitté l'Ardèche pour venir créer un lieu. Qu'est-ce que tu as créé d'abord ici, l'école, le lieu, comment s'est passée son arrivée, qu'est-ce que tu voulais faire ici?
Alors, après avoir développé une école depuis 1999 et un écolieu à partir de 2002 jusqu'à 2021, en raison de ce fameux facteur humain dont on vient un petit peu de parler, nous avons donc été expulsés de notre propre projet en 2021 et dans notre recherche, un peu dans la précipitation, nous avons eu cette proposition de lieu. Donc sur un domaine qui fait 35 hectares, dont 10 hectares en bail amphithéotique. Et il y avait une ferme, des terres, des forêts. Et nous avons donc eu le projet, le premier projet, c'était vraiment de recréer l'école, parce que l'école, c'est vraiment notre pierre fondatrice pour les enfants. Et c'est là où nous trouvons le plus de motivation. Et effectivement, ça n'a pas été possible de suite pour des raisons administratives et en particulier des raisons d'urbanisme, puisque nous sommes sur une zone qui a un PLU et une zone agricole. Et sur une zone agricole, il n'est vraisemblablement pas possible de créer une école, en tout cas dans cette région. Et donc cet obstacle nous a emmené de projet en projet autour à explorer un petit peu ce qui pouvait se faire avec une sorte de retour aux sources, puisque l'école a ouvert, mais juste à côté, vraiment, il n'y a qu'un chemin qui sépare l'école de l'Oasis sur une propriété qui appartient à la même personne qui nous loue aussi en bail amphithéotique tout le reste. Simplement, c'était sa maison d'habitation et elle était devenue un squat pendant les 7 dernières années. Donc, on n'avait pas pensé au départ à lui proposer de reprendre ce lieu parce que c'est un lieu qui lui appartient et qui lui est cher et peut-être qu'il avait d'autres projets. Simplement, chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était le plus évident et lui aussi a admis cela. Et donc, on s'est emparé de la question juridique pour récupérer ce lieu et ouvrir l'école en 2025.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette école ?
Oui, ça a été très fluide de rouvrir une école après 21 ans d'expérience, parce que c'est 21 ans très expérimentaux. Et on a répondu au mieux aux besoins des enfants, alors dans leur diversité, parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes, ce qui fait qu'on a exploré beaucoup de pédagogies différentes, beaucoup d'outils différents. Mais la base, c'est vraiment le respect de l'enfant, le respect de la personne, le respect des rythmes et des besoins des enfants.
Concrètement,
c'est l'abolition de la violence éducative ordinaire en premier lieu, c'est-à-dire pas de punition, pas de récompense, pas de cris sur les enfants, on leur fait pas peur, on ne les évalue pas. Donc il y a vraiment tout un pan de l'éducation ordinaire qui n'existe pas chez nous. On ne le met pas sous terreur simplement parce qu'on veut qu'il obéisse à ce que nous pensons être bon pour lui. Voilà, donc c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt un accueil de l'enfant et c'est plutôt retrouver nos compétences de caregiver. Donc j'ai utilisé un mot qui est emprunté à l'éthologie humaine et à la théorie de l'attachement, puisque nous renouons avec une qualité fondamentale de notre espèce qui est de prendre soin. Et prendre soin d'un enfant, c'est vraiment l'accompagner dans son grandir, dans son développement, jusqu'à ce qu'il s'autonomise et qu'il puisse prendre soin de ses besoins par lui-même, mais dans une grande liberté. Comme Maria Montessori, l'enfant, c'est un être vivant qui contient des promesses qui sont déjà là et qu'il s'agit de faire fleurir en les arrosant bien, en les réchauffant, en prenant soin comme un jardinier prend soin de ses graines, quoi. C'est vraiment honorer le vivant aussi à travers l'accompagnement de la personne pour qu'elle puisse devenir ce qu'elle est.
Alors Sophie, cette école, elle est faite à partir de 3 ans et j'ai vu jusqu'à 19 ans, c'est important. L'éducation des jeunes adultes, vous en occupez aussi ?
Alors, dans notre précédent éco-village, oui, on avait jusqu'à 18-19 ans des enfants qui prolongeaient, on va dire, leur scolarité jusque-là. J'ai même jusqu'à un diplôme final. On faisait passer le bac américain, le high school diploma, parce que c'est plus simple que le bac français. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'accueil des jeunes apprenants, parce qu'avec la diversité d'activités et de compétences que nous avons sur place, la perspective, c'est vraiment de pouvoir accueillir des jeunes adultes qui vont pouvoir acquérir des compétences métiers. Pour affronter aussi la transition écologique, parce que nous savons que c'est vraiment nos capacités à être autonomes localement qui vont nous permettre de surmonter l'épreuve et la difficulté qui nous attend avec la fin des ressources à bon marché et des carburants peu chers, etc. Donc il va falloir se réadapter complètement, et c'est une réadaptation sur son territoire, avec ce que nous avons sous les pieds, avec ce que nous avons autour de nous. Et donc c'est s'alimenter, mais c'est aussi pouvoir fabriquer des objets de base, c'est pouvoir mettre un toit sur notre tête, pourquoi pas étudier la filière textile aussi, ça fait partie peut-être des projets d'avenir pour nous. Et aussi, il y a un garage solidaire qui va ouvrir, donc savoir se débrouiller et s'autonomiser dans le réemploi, dans la récupération, dans la réparation. Et puis la filière bois dont je parlais déjà, qui va permettre de couvrir aussi un grand nombre de compétences métiers. Donc notre perspective là, c'est d'être aussi un espace test en lien avec d'autres entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir profiter de certains créneaux, même institutionnels, de manière à pouvoir construire des parcours immersifs pour des jeunes qui veulent apprendre toutes ces compétences pour l'autonomie.
On avait fait un reportage pas très loin d'ici, à Poucharamé, sur l'école de lettres. 3PA, c'est un petit peu la même idée.
Alors, on est venu aussi dans la région très attiré par 3PA et très séduit par leurs propositions. Et effectivement, ça fait vraiment partie des organisations de la fratrie, quoi, d'une sorte de tout cohérent où on va proposer divers axes à des jeunes pour qu'ils puissent sortir aussi de l'éco-anxiété qui est très forte en ce moment.
Ça, c'est important, et d'où l'importance de transmettre, d'apprendre aux jeunes, non pas avec forcément les savoirs anciens, mais avec ce qu'ils auront à affronter à l'avenir, être lucide de ce que va être le monde et pas croire que les choses vont rester ainsi, parce que malheureusement, elles vont bouger certainement. On va faire une petite pause musicale avant de revenir sur ton projet. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter ?
Alors moi, j'ai choisi une chanson qui s'appelle en français « La Marelle » et j'aime beaucoup la métaphore qui parle de la vie, et que la vie, c'est une reliance entre la terre et le ciel, et que ce n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson.
« Jogo da marelinha na linha não vai pisar, pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da marelinha é pra menina pular, cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da marelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que eu vou me embaiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da marelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado pra te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Alors nous sommes de retour avec Sophie Rabhi-Bouquet. Sophie, alors on a vu un petit peu les fondements de ton école, ce respect de l'enfant, cette bienveillance vis-à-vis de l'enfant et de son unicité. Mais il y a quand même l'apprendre, je l'ai vu sur votre site internet. Il y a marqué apprendre vraiment et apprendre logiquement. Tu peux nous expliquer en deux mots ce que sont ces deux concepts ?
L'enfant est déjà suréquipé pour apprendre. En fait, dès sa naissance et même dans la vie intra-utérine, on a des capacités d'apprentissage qui sont colossales et qui sont d'ailleurs beaucoup plus conséquente et active lorsque l'enfant est tout petit, puisqu'on sait que le cerveau d'un nouveau-né, par exemple, a un nombre de connexions bien supérieur à celui d'un adulte. Et donc il a cet équipement complet et hyper performant pour l'apprentissage. Et ce qui m'a épatée chez des pédagogues comme Maria Montessori, mais d'autres aussi, bon, il y a Krishnamurti, il y a Célestin Freinet, il y a De Croly, il y a quantité de pédagogues qui se sont penchés sur ces questions. Et puis aujourd'hui, c'est rejoint par les neurosciences, justement. Le carcan que nous mettons autour de l'enfant pour qu'il apprenne, donc à la fois l'exigence adulte qu'il soit, qu'il devienne tel qu'on le voudrait qu'il soit, donc conforme, poli, obéissant, etc., d'une part, et puis d'autre part, le programme scolaire avec une définition très précise de tous les items qui doivent être à tel âge et à tel âge acquis. C'est plutôt quelque chose qui va venir interférer avec ces qualités naturelles de développement de l'enfant. On va détourner la curiosité, on va détourner l'enthousiasme, on va détourner les capacités naturelles de l'enfant à s'émerveiller et aller à la découverte du monde, à aller poser mille et une questions, faire mille et une expériences, etc. Et pourtant, c'est comme ça qu'il apprend. Il y a une dimension affective dans l'apprentissage. On apprend d'autant mieux qu'on se sent respecté, aimé, soutenu. Voilà, c'est toutes ces composantes-là. Donc, nous essayons de préserver au maximum le contexte d'apprentissage, que ce soit le contexte physique avec un matériel adapté, mais aussi le contexte humain et relationnel avec des attitudes, des postures qui sont adaptées aussi à cet apprentissage optimal. Donc, les pédagogies, ce qu'on dit alternatives, qui prennent un peu les chemins de traverse par rapport justement, et des libertés par rapport à la vision conventionnelles de l'éducation, ne sont pas soutenues dans notre pays. Il y a des pays, notamment en Europe du Nord, etc., où il y a plus d'argent public qui est mis au service de ces pédagogies, mais en France, pas du tout. Au contraire, nous sommes toujours soupçonnés de séparatisme ou de détourner les enfants de la République, du droit chemin. Donc il y a toujours une lutte un petit peu pénible avec l'administration, alors qu'il n'y a aucune raison que de voir les choses comme ça.
Alors on va parler de cet autre lieu, dans le lieu, c'est-à-dire cette oasis de Poulard. Qu'est-ce que tu as alors? C'est marrant, il y a une exploitation agricole et un camping que vous avez repris, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors c'est une ancienne exploitation agricole qui était plus en service depuis 13 ans, donc là, ça fait 18 parce que ça fait 5 ans qu'on est là déjà. Et le propriétaire avait aussi mis en place ce camping de 25 emplacements parce que il avait des réseaux très forts dans la diététique, l'alimentation, et il faisait des séminaires. Et il y a aussi deux gîtes, deux chambres d'hôtes. On a ouvert un petit restaurant, une petite boutique vrac, zéro déchet, et puis un fournil, et puis on a créé un élevage de chèvres, on fait du fromage. Et puis c'est pas fini, il va y avoir un garage solidaire, il va y avoir une scierie avec toute la filière bois, de l'arbre jusqu'à l'objet. Et puis on a aussi des pratiques de bien-être, de soins, telles que du yoga, des massages, etc.
Et alors tu es arrivé ici quand même, dans un territoire vierge, et tu as réussi quand même à avoir des gens qui sont venus voir, qui ont adhéré au projet. Comment ça s'est passé ?
Oui, au début on a parlé de mon père, Pierre Rabhi, donc lui, son réseau, il était national et international. Alors de toute façon, lorsqu'on se déplace dans le pays, avec mon nom, c'est assez facile d'avoir du réseau assez facilement. Et puis nous appartenons aussi à un Un réseau qui s'appelle Oasis, donc, qui est porté par la coopérative Oasis. Et il y a 1500 lieux en France, donc nous avons des voisins pas si loin d'ici qui ont aussi d'autres collectifs du même réseau. Où que j'aille, dans tous les cas, je suis identifiée comme une personne qui peut apporter une alternative en pédagogie. Et ça, il y a des familles absolument partout sur le territoire qui sont intéressées par des pédagogies différentes.
Et alors, qu'est-ce que vous avez créé comme lieu ? On l'a dit rapidement, un élevage de chèvres. Mais tu as voulu un lieu quand même qui se relie au local ?
Oui, absolument. Pour nous, c'est vraiment cardinal, ça. C'est vraiment... L'idée n'est pas de créer une bulle étanche sur un territoire. C'est vraiment de vivre avec ce territoire et de pouvoir interagir et dialoguer avec même des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes convictions que nous. C'est très important et c'est pour ça qu'on est présent sur les marchés. On a une vie associative locale, même au cœur de la municipalité, pour pouvoir dialoguer avec des gens du village. Et on a cette proximité de Toulouse aussi qui nous permet d'étendre un petit peu nos actions, même dans la vie urbaine, où il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions et qui ont envie d'approcher des alternatives à la vie ordinaire d'aujourd'hui pour pouvoir déjà se projeter dans comment on pourrait faire dans un avenir de plus en plus proche, hein, finalement, parce que les choses peuvent basculer, changer assez rapidement.
Donc vous les accueillez ici, donc ce camping est en partie pour des gens qui ont choisi de vivre autrement à l'année, et une partie pour l'accueil. Et donc les gens viennent pour ça, pas pour la mer, hein. Ils viennent plutôt ici pour des formations, pour ce genre de choses ?
Oui, c'est pas du tout une région touristique, hein. Nous sommes en périurbain au sud de Toulouse, donc c'est plutôt une zone de passage. Donc il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont en route, mais il y a aussi la plupart des gens qui viennent s'informer et s'inspirer au cœur d'une oasis en activité. Et pour cela, ils peuvent effectivement prendre un hébergement sur place ou séjourner. On accueille aussi des volontaires, des woofers, des workaway, des services civiques. On est sur différents réseaux de volontariat, ce qui permet à des jeunes de découvrir aussi d'autres modes de vie.
Alors tu as parlé tout à l'heure, parce que du coup ça crée tout cela un collectif, et tu as dit que justement dans tes expériences passées, ton père, toi, étiez plus attaché au collectif qu'au communautarisme. Comment se gère ce collectif ? Parce que c'est souvent un grand souci, c'est-à-dire il y a beaucoup d'écolieux qui ont envie de se créer sur le territoire, qui n'arrivent parfois pas à terme d'ailleurs, ils sont nombreux parce que justement il n'y a pas de management du collectif qui est bien mené. Ici c'est quoi la philosophie pour gérer ce collectif ?
C'est de plus en plus documenté, hein, quand même, la vie en écolieu, et on fait partie des gens qui ont beaucoup contribué à cette documentation, parce qu'on fait partie des pionniers. À l'époque, on a créé notre premier lieu, il n'y avait qu'une quinzaine d'oasis en France, et aujourd'hui il y en a 1500. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi de la vie collective, c'est vrai, et puis ça pose beaucoup de questions et ça nous invite à nous remettre en question en permanence. Mais en gros, il y a des fondamentaux comme des axes qui sont à la fois le rapport au territoire, effectivement, la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, mais la sobriété énergétique, tout ce qui est les modes de vie écologiques, mais aussi en termes de relations et de gouvernance. On est sur des modes de gouvernance participatifs ou de démocratie directe. On va prendre les décisions à zéro objection, des choses comme ça. Et puis, adopter des principes dits de sociocratie, d'holacratie, de gouvernance dynamique.
Dis-nous un peu plus, parce que pour toi, c'est évident, mais pas pour tout le monde.
L'idée, c'est d'horizontaliser les prises de décision, qui est une très très belle idée. Nous n'utilisons plus le terme de gouvernance partagée pour en avoir fait les frais et être allé un petit peu au bout de cette notion, dans le sens où il peut y avoir aussi le pouvoir, la prise de pouvoir du collectif sur le projet. Et un projet peut être presque... tétanisé, en tout cas bloqué par des élans d'horizontalisation des décisions, mais qui finalement viennent entraver la bonne marche des processus et à la fois décevoir et décourager les initiatives. Donc pour nous, la clé, elle est vraiment à mi-chemin entre verticalité et horizontalité. Et l'idée de la coopérative ici, c'est justement de rendre le lieu à chaque entrepreneur qui vient concrétiser son projet, donc qu'il puisse avoir une partie un peu privative sur laquelle il est maître, souverain, et il prend ses décisions, et tout en est en voisinant avec d'autres coopérateurs et d'autres entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'on construit, nous, cette croisée des chemins entre ces deux axes fondamentaux. Donc il y a des décisions qu'on prend tous ensemble à zéro objection, mais finalement c'est assez rare que des décisions concernent tout le monde. Et puis il y a la décision que le porteur de projet prend dans son périmètre et qui le concerne, à partir du moment où il respecte le cahier des charges de l'écosystème global, eh bien, il est absolument souverain pour prendre ses décisions. Donc nous, c'est comme ça qu'on...
Oui, il y a quand même un règlement intérieur, tu me dis, il y a un cahier des charges. Quel est-il ?
Il tourne beaucoup autour du respect, donc le respect des enfants d'abord, des individus, et donc on a des règles un peu relationnelles, et ça tourne aussi autour de l'écologie et du bio, et des économies d'énergie, de la qualité bio des productions, de la sobriété. Tout ça est écrit.
Et alors justement, qu'est-ce que vous faites en écologie et en bio ici ?
Alors, nous produisons des légumes et des fruits bio, ainsi que du fromage de chèvre bio également.
Alors, il y a combien de personnes sur ces ateliers-là qui y sont ?
Alors, sur chaque exploitation, alors ce sont des exploitants individuels, donc des entreprises agricoles. C'est une ou deux personnes qui sont maîtres de leur métier, de leur art, et qui ont un territoire dédié. Donc, soit un bâtiment ou des terres qui sont dédiées à leur activité et qu'ils louent. Il y a aussi un fournil avec du pain au feu de bois, avec une farine locale. Bientôt, paysans boulangers, puisqu'on vient de signer pour une dizaine d'hectares de terres supplémentaires.
Pour pouvoir faire les céréales.
Pour pouvoir faire les céréales et la farine, puisqu'il y a un moulin à moins de 10 km d'ici. Et en termes d'écologie, on est en habitat léger. Ça veut dire qu'on a un mode de vie sobre, pas forcément très performant sur le plan énergétique, hein, parce que l'habitat léger, c'est toujours compliqué de performer énergétiquement. Et en tout cas, ça demande beaucoup de réflexion et de mise en œuvre.
J'ai vu des choses qui commençaient à être pas mal, de la yourte améliorée, on va dire, des choses qui ont l'air quand même relativement bien isolées.
Oui, effectivement, la yourte améliorée, c'est des yourtes avec plus d'épaisseur d'isolant. Il y a aussi des expérimentations qui se font en bottes de paille, etc. Mais ça, c'est un champ qui est ouvert et qui va prendre des années à se développer, je pense, les performances énergétiques dans les habitats légers. Et il y a une association qui est déjà sur le coup en Bretagne qui s'appelle Les Hameaux Légers et qui travaille beaucoup sur ces questions-là.
Héritage du camping, donc des mobilhomes, et là, ça, c'est pas génial.
Alors, juste là, il y a deux mobilhomes qui sont en cours d'amélioration, parce qu'on a tout refait, toute l'isolation des murs et du toit. Et puis, on a aussi changé les systèmes de chauffage. Donc, on est dans des chauffages au granulé ou au bois pour pouvoir sortir du tout électrique, qui est souvent le cas dans les campings.
Un petit mot de la fin, Sophie ?
Moi, je suis toujours ravie de partager ce qui se passe chez nous, parce que c'est vrai que même avec notre meilleure volonté de vouloir diffuser et nous tourner vers l'extérieur, eh bien, on est un peu le nez dans le guidon, il faut le dire. Et donc, c'est toujours très plaisant de pouvoir partager. Et c'est un lieu qui est ouvert, donc qui se visite. Il y a une porte ouverte par mois. Il y a diverses possibilités, les réseaux WOOF, Workaway, ou même de venir en volontariat comme ça à la semaine. Tout est possible pour pouvoir s'inspirer de l'oasis de Poulard et de la ferme des enfants.
Et je vous conseille, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert, d'aller sur internet Oasis de Poulard, P-O-U-L apostrophe A-R-T, et là vous découvrirez un petit peu le projet, les deux projets, hein, c'est-à-dire celui de l'Oasis en lui-même et celui de l'école. Merci beaucoup Sophie, au revoir.
Merci, au revoir.
L'ours et la carotte, écoutable sur internet. À la semaine prochaine. Thank you.
Enclavée au cœur des Alpes, avoisinant de nombreux pays, l'Autriche est un petit territoire qui incarne le cœur de l'Europe de l'Est. C'est également une terre de